Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue à la classe de seconde du collège d'Esclangon. Vous êtes là ? Pardon, du lycée, bien sûr. Seconde du lycée d'Esclangon. Bonjour, Esclangon. Et bonjour au troisième de Sainte-Tulle. Vous êtes là ? Bonjour, tout le monde. Bienvenue, merci d'être là, parce que ça donne du sens à ce qu'on fait. Si vous n'étiez pas là, il y aurait un peu moins de sens. Donc, merci pour votre présence et merci à vos professeurs de nous permettre cette collaboration. Je suis très heureuse d'être présente ce matin sur cette place Marcel Pagnol, sur laquelle le soleil se lève doucement, en compagnie d'Éric Pessan. Bonjour Éric et bonjour. Bienvenue. Bienvenue à Manosque. On va avoir une petite heure d'échange ensemble et cette rencontre ce matin lance le prix littéraire des adolescents du 04 qui est organisé depuis 120 ans, 125 ans, je ne sais plus, par l'association Éclat de lire. Avec le partenariat des lycées, des libraires, des médiathèques de la région. Voilà, il y a toute une synergie qui se passe, principalement dans les établissements scolaires. Et donc l'idée, c'est de proposer aux jeunes lecteurs une sélection d'ouvrages qu'ils vont avoir le plaisir de lire, de découvrir pendant l'année. Ils vont avoir le plaisir de rencontrer certains auteurs pendant l'année. Et puis on se retrouvera au mois de mai. Et c'est vous qui aurez choisi le livre qui vous aura le plus convaincu, bouleversé, ému, déplacé. Et donc, on se retrouvera au mois de mai au Théâtre Jean Le Bleu pour remettre un très beau panier garni à l'heureux lauréat. Voilà. Donc, je remercie tous les acteurs qui se mobilisent pour que cet événement puisse avoir lieu chaque année et que vous puissiez non seulement avoir accès à des livres choisis par des équipes, mais aussi aux auteurs pour les rencontrer, parce que ça agrandit toujours un peu la lecture. Alors, je vais vous annoncer, parce qu'elle n'était pas encore connue, cette liste, mais... elle est là, je vais vous annoncer les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ouvrages retenus. Il y a un roman illustré, 5 romans, une autrice de théâtre et la BD. On commence par Neb de Caroline Solé, voilà, avec mon assistant Éric Pessan. Neb de Caroline Solé, illustré par Gaïa Wisniewski à l'École des loisirs. Vous allez découvrir l'univers des jeux vidéo, je ne sais pas si ça vous le parle, les jeux vidéo. Celui d'Éric qui est donc présent, Le soleil est nouveau chaque jour à l'École des loisirs également, dont on va parler longuement ce matin. Il y aura aussi La répétition de Cécile Ladjali, c'est chez Thierry Magnier. Histoire de la fille qui ne voulait tuer personne, de Jérôme Leroy, c'est chez Cyros. La cabane de Ludovic Lecomte, à l'École des loisirs. Vindicte de Gildas Guyot, ça c'est chez Faction, je ne connaissais pas cette maison d'édition. Et puis de nouveau à l'École des loisirs, en théâtre cette fois, Glovy, et Julie Ménard est actuellement sur la place de l'Hôtel de Ville avec Salomé Kinner pour s'entretenir face à d'autres lecteurs. Et pour terminer, il fait ça d'une main de maître, Grande échappée de Bérangère de la Porte, c'est aux éditions Nathan. Voilà donc la sélection, vous allez être invités à découvrir cette année. Vous allez faire vos choix, faire vos lectures, échanger avec vos professeurs, entre vous on l'espère. Et puis peut-être que ça suscitera des envies, des curiosités, c'est en tout cas le but de l'opération. Voilà, maintenant que tout ça est installé, le cadre est posé, on va pouvoir se tourner vers notre invité. Éric, je vais préciser que vous êtes un auteur de romans pour adultes, mais aussi pour adolescents, mais aussi pour adultes. Auteur de fiction radiophonique, la radio c'est quelque chose qui vous habite depuis longtemps. Vous avez aussi écrit des pièces de théâtre. J'ai apporté Pebble Boy, que j'ai découvert assez récemment et qui m'a beaucoup touchée, sur ce petit garçon de pierre. Et puis... j'ai apporté avec moi des textes qui m'ont bien marqué aussi. Peut-être que vous les avez vus passer dans vos CDI ou dans vos bibliothèques. Dans la forêt de Hokkaido, qui était paru il y a quelques années. Et puis, Tenir debout dans la nuit, l'histoire de Lali à New York, qui part avec son ami Piotr, qui s'avère être un bien piètre jeune homme, qui ne se comporte pas très bien. Et Lali va se retrouver seule dans les rues de New York, sans portable, sans argent, pour essayer de fuir à ce que son copain a essayé de faire. Voilà. Fuir ce que son copain a essayé de faire. On va aborder maintenant celui pour lequel on est rassemblés ce matin. Mais avant d'entrer dans le roman, je voulais vous entendre, Éric, sur peut-être le souvenir de l'adolescent que vous avez été en tant que lecteur. Est-ce que la lecture a eu une place assez tôt dans votre vie ? Est-ce que vous y avez eu accès facilement ? Ou est-ce que c'est une découverte un peu tardive ?
Alors, oui. J'ai découvert la lecture assez jeune. En fait, à la fois, il n'y avait pas de livres chez mes parents ne lisaient pas. Mais mon père était chauffeur routier Et il y a très très longtemps, dans les années 70, les stations ESSO donnaient des points. Et avec les points des stations ESSO, on avait des bandes dessinées. On avait Lucky Luke. Voilà. Et donc, ils ramenaient comme ça des BD, des éditions Dupuis à la maison, après ces longues tournées à travers la France. Donc, les premiers livres que j'ai eus entre les mains. Et puis, mes parents, je dis qu'ils ne lisaient pas, mais ils achetaient Astérix, ils achetaient Tintin. Donc, les premiers livres que j'ai eus entre les mains, c'était plutôt ça. C'était de la bande dessinée. Très vite, à l'école primaire, j'ai rencontré des copains qui disaient d'autres choses. Alors, qui disaient des BD de garçons. Il y avait un truc qui était extrêmement sexué. C'est-à-dire, c'est la Marvel. Spider-Man, Iron Man, Hulk, Thor, Avenger, les X-Men, tout ça, Daredevil. C'était vraiment lu que par des garçons. Donc, il y avait les revues Strange, Special Strange, Titan, Nova. Et cette BD de ces histoires de super-héros, ça m'a donné envie de lire de la science-fiction et du fantastique. Voilà. Donc, moi, j'ai commencé par ces littératures plutôt de l'imaginaire, en tant que lecteur. C'est pareil, je me débrouillais, je prenais des bouquins dans la bibliothèque du collège. Après, ensuite, on n'était pas inscrit dans une bibliothèque parce que c'était pas du tout dans les schémas familiaux d'aller à la bibliothèque, de prendre des livres. Mais il y avait les bibliothèques des collèges où je pouvais emprunter des bouquins. Et puis il y a une petite bouquinerie là, à l'angle. J'ai beaucoup éclusé les bouquineries où j'achetais les livres d'occasion parce que c'était beaucoup moins cher que les livres neufs. J'essayais de les trouver, ceux qui n'étaient pas trop abîmés. Et j'ai passé mon adolescence à lire, oui, bien sûr. Je lisais beaucoup. Voilà. Petite parenthèse. Je vous parle d'une époque très lointaine où je me souviens de l'événement de... J'ai vu, enfant, l'arrivée de la troisième chaîne à la télévision française. Je suis très, 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 très vieux.
Vous aussi, vous avez 120 ans, comme éclair.
Ouais, là, je suis né à peu près en même temps que le prix, à 120 ans. Canal+, mes parents ne l'avaient pas. Quand j'étais en seconde, mes parents ont fait l'acquisition d'un magnétoscope qui permettait de louer des cassettes vidéo VHS que j'allais chercher à vélo au vidéoclub. Et j'avais le droit de choisir un film par mois, parce qu'on avait un abonnement pour pouvoir voir des films. Et évidemment, Internet était l'arme secrète de l'armée américaine qui avait compris qu'on pouvait envoyer des données informatiques via les lignes téléphoniques. Donc personne n'était au courant. Voilà. Donc je suis un dinosaure qui vient d'une époque où quand on ne lisait pas, on s'emmerdait grave quand même. C'est une question que je me pose toujours parce que je pense que je serai jeune maintenant. Évidemment, je prendrai un livre quand j'en aurai fini avec quand j'aurai vu tout YouTube, quoi. Enfin, et je suis absolument sûr que je serai un moins grand lecteur que ce que j'ai été. Voilà. Et par contre, le pli a été pris à l'adolescence et j'ai toujours continué de lire, vraiment.
Et vous avez commencé à écrire aussi à l'adolescence parce que vous me racontiez il y a un instant que vous aviez un voisin dans votre village qui était auteur, qui avait reçu le prix Goncourt, et c'est à lui que vous avez eu l'occasion de présenter vos tout premiers manuscrits, vos toutes premières histoires.
Oui, j'écrivais. En fait, en CP, j'ai appris à écrire. Et c'était chouette, brusquement, parce qu'en fait, je lisais déjà les Tintins ou les Lucky Luke avant, mais je ne comprenais rien. On ne me lisait pas les livres le soir. Et je m'inventais des histoires avec les images. J'imaginais ce que disaient les personnages et je m'inventais des histoires. Voilà. Et en CP, j'ai appris à lire, à écrire, et je me suis rendu compte que les livres que je lisais n'avaient absolument aucun rapport avec les vraies histoires. Je m'étais inventé tout à fait autre chose. C'est assez drôle, d'ailleurs. Et forcément, dès le collège, dès la sixième, je me suis mis à écrire parce que je trouvais ça chouette. Je trouvais ça chouette d'inventer des choses. Alors, ça n'avait de la valeur que ce que peut faire un gamin de 11 ans, de 12 ans. Hein. Mais je trouvais ça intéressant. Et puis, il y avait un autre truc qui était hyper important. C'est que je voulais faire de la musique et mes parents m'avaient dit non, ça coûte cher, il faut faire des cours, il faut aller en école de musique, ou il faut avoir un prof, il faut acheter ou louer un instrument. C'est hors de question pour des raisons économiques. Écrire, et je dessinais aussi, écrire et dessiner, c'est gratuit. J'avais besoin d'autorisation de personne. J'avais du papier, j'avais des stylos, j'étais scolarisé, je pouvais faire ce que je voulais avec du papier. Voilà. Et c'était mon univers à moi. Et petit à petit... Oui, je me suis pris au jeu, j'ai écrit, je commençais des trucs que je finissais pas, évidemment. Quand on a 12, 13, 14, 15, 16, on écrit pendant 20 minutes et on est au bout de notre vie, on passe à autre chose. Et puis, plus tard, l'année du bac, j'ai vraiment essayé de mener un manuscrit jusqu'au bout. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que j'en fais ? Je l'ai fait lire. Et il se trouvait qu'en effet, dans un petit village des Landes qui s'appelle Uzeste, enfin, c'est au sud de la Gironde, c'est la forêt des Landes, Il y avait un type qui s'appelait Jean Vautrin qui venait d'acheter une maison. Il avait eu le prix Goncourt. Il avait acheté la grande maison avec la piscine et le tennis. Et ben, je suis allé, l'été, quand j'allais voir ma grand-mère, je suis allé frapper au portail de Vautrin pour lui faire lire un manuscrit. Il m'a dit, c'est pas très bon, mais il y a des choses pas mal. Et voilà. Et c'était assez intéressant, cette discussion. C'est la première fois que je voyais un écrivain en vie.
Un vrai, en chair et en os.
En chair et en os, ouais.
Vous avez dit qu'écrire, effectivement, ça coûte pas grand-chose. Il faut des papiers, du papier, des stylos, donc on peut assez facilement rassembler le matériau. Ça me rappelle une phrase que je cite souvent parce qu'elle m'a marquée à l'époque. Je crois que c'était même sur cette place que Dany Laferrière, qui était là pour ses livres, un auteur haïtien, avait dit « Avec la littérature, on peut vivre de très grandes émotions, les écrire et les lire. On peut être très ému, on peut pleurer, on peut rire, on peut avoir peur, on peut être excité. Enfin, il y a plein d'émotions qui peuvent nous traverser. » Et il dit « N'oublions jamais que tout ça, ça se fait avec 26 lettres. » Voilà, c'est un alphabet. Et avec 26 lettres, en fonction de comment on les agence, on obtient des mots. De comment on agence les mots, on obtient des phrases. De comment on agence les phrases, on obtient des paragraphes et des pages. Mais tout ça avec 26 lettres, ces émotions-là sont là produites et créées avec 26 lettres. Et j'ai jamais oublié cette phrase-là. Je me dis que c'est toujours l'art qui demande le moins de matière possible et qui peut pourtant créer des émotions extrêmement fortes. Moi, j'adore aller au cinéma, j'adore écouter de la musique. Mais ce qu'il faut rassembler pour, même si aujourd'hui avec les ordinateurs, on peut simplifier un peu ça, mais ce qu'il faut rassembler comme équipe, comme moyen, comme budget pour créer un film ou faire un concert n'est pas comparable. Et les émotions ne sont pas forcément plus forte qu'en littérature.
Ouais, je vais juste corriger Dany Laferrière, il est à l'Académie française. Mais 26 lettres et la ponctuation, c'est quand même, voilà, on a besoin de quelques signes de ponctuation pour écrire.
Bien sûr, ça fait partie du vocabulaire de l'écrivain. Vous vous éloignez tout doucement, petit à petit, de cet âge de l'adolescence. C'est pourtant l'un de vos lectorats de prédilection. Comment est-ce que vous gardez une connexion avec cet âge-là pour ne pas être complètement dépassé, parce que le monde va très vite? Quelles sont vos sources voilà, de connexion pour être aux prises avec leurs intérêts, leur langage, leurs émotions, ce qu'ils traversent?
Alors, concrètement, j'ai commencé à publier des romans adultes, enfin de la littérature générale. Et en même temps, j'ai lancé des projets théâtre. Je m'étais dit un jour ou l'autre, enfin, je m'interdis rien. Enfin, voilà, j'ai envie d'écrire des choses. Voilà, j'écris de la poésie, j'écris plein de choses. Et puis, la littérature jeunesse, la connexion s'est faite déjà par mes enfants. Je suis père, j'ai des enfants. Quand ils étaient ados et qu'ils m'ont, enfin, grand enfant et jeune ado, pré-ado, et ils ont commencé à me dire, tu publies des livres, papa, quand c'est que tu écris un truc pour nous? Voilà. Donc ça a commencé comme ça. Et puis je rencontrais des auteurs et des autrices qui étaient, comme moi, auteurs, autrices de littérature générale et qui écrivaient aussi pour ados. Et qui me disaient, tu devrais essayer, c'est formidable, tout ça. Donc en fait, le désir est venu comme ça. Et ensuite, maintenant, mes enfants sont adultes, parce que vous l'avez compris, je suis très très vieux. Je garde une connexion avec l'adolescence, déjà parce que je vais chercher plein de choses dans ma propre adolescence. Hein. Le monde a beaucoup, beaucoup changé entre le moment où j'étais ado et maintenant. Mais les questions essentielles, qu'est-ce que c'est la justice, l'injustice, qu'est-ce qui nous met en colère, pourquoi on veut se révolter, la honte, la naissance du sentiment amoureux, ça n'a pas beaucoup évolué malgré tout. Voilà. Ce genre de choses sont encore très présentes entre nous. Et puis, moi, j'interviens beaucoup, beaucoup, beaucoup dans les établissements scolaires. L'année dernière, j'étais auteur associé dans le lycée. J'ai fait toute l'année scolaire dans un lycée. J'ai intervenu une semaine par mois. J'ai fait écrire toutes les classes du lycée, seconde, première, terminale. Je suis intervenu dans toutes les matières, en anglais, en mathématiques, en physique, chimie. Voilà, j'ai fait des ateliers dans ce lycée-là. L'année d'avant, j'étais auteur associé d'un collège en Dordogne, dans une toute petite ville qui s'appelle Thiviers. J'interviens beaucoup, beaucoup en milieu scolaire. Voilà. Et en fait, je le fais pas pour me dire il faut que je garde un contact avec la jeunesse pour pouvoir écrire des textes adressés à la jeunesse. Je le fais déjà parce que c'est un travail qui m'intéresse. Voilà. Je trouve ça très intéressant d'intervenir dans des classes, d'arriver avec une pile de bouquins, de dire voilà, je vais vous présenter des lectures, je vais vous faire écrire. J'ai besoin d'entendre votre voix. Et ayez confiance en ce que vous êtes capable d'exprimer. Ça, c'est, pour moi, c'est hyper intéressant. Voilà. Ça fait partie à part entière de mon métier d'écrivain. Je suis pas un gars qui fait des livres et qui, à côté, fait des ateliers ou des interventions. Mon métier d'écrivain, ça consiste aussi à à tout ce travail de transmission. Voilà, pour moi, il est absolument essentiel. Et donc, de fait, en étant en contact avec la jeunesse, je vois des choses qui apparaissent, des thématiques, tout ça. Et oui, d'une certaine façon, ça nourrit mon écriture. En tout cas, ça me permet de voir que je ne suis pas trop largué sur certaines choses. Vous évoquiez tout à l'heure Tenir debout dans la nuit, qui est l'histoire d'une tentative de viol, tout simplement. Ce livre-là, clairement, c'est une commande qui m'a été passée par des adolescentes en lycée. M'ayant dit et redit, et ayant écrit et réécrit combien, quand elles ont dit non à des garçons, les garçons n'ont pas entendu. Voilà. Et ce genre de choses, j'aurais pas. Étant donné que je suis un homme moi-même, j'aurais peut-être eu des difficultés à me lancer de moi-même dans ce texte-là. Si j'avais, il y a plusieurs fois des adolescentes après des ateliers d'écriture. Il s'agissait en plus pas du tout d'ateliers d'écriture sur le consentement, sur les violences sexuelles. On parlait de tout à fait autre chose. Et par contre, avec un peu de confiance, un peu de temps, un peu de bienveillance, des récits de vie apparaissaient. Et régulièrement, on me disait mais. Écrivez un livre là-dessus. Écrivez un livre pour que les garçons le lisent. Voilà. Et c'est devenu un projet que je n'avais pas du tout anticipé. Voilà. Donc ça se passe comme ça. Mais en fait, l'intérêt que je trouve à animer des ateliers, à faire des rencontres dans les collèges et lycées, encore une fois, ce n'est pas pour aller espionner la jeunesse, pour savoir à quoi elle pense, etc. Parce qu'en plus, je m'amuse à écrire des livres qui sont sur des thématiques qui, parfois, ne vous sont pas directement adressées, mais que moi, j'ai envie de vous poser certaines questions. Voilà.
C'est peut-être le cas de celui-ci.
C'est le cas de celui-ci, oui.
Pour Le soleil est nouveau chaque jour. Dans ce texte-là, on rencontre une bande de jeunes. Ils sont en train de sortir de l'adolescence. Ils ont plutôt entre 18 et 23 ans. Donc c'est le cas de Thomas, Clara et leurs amis. C'est Thomas qui raconte l'histoire 3 semaines après les faits. Et les faits, en quelques mots, et on va entrer dans le détail, c'est l'histoire d'une résistance dans une région qui pourrait être du côté de la Lorraine, dans une ville qui s'appelle Assiange. Il y a le projet d'implantation d'une grosse plateforme, d'un gros hangar de vente qui va déforester toute une partie de la région. Et donc, cette bande de jeunes décide de résister et va s'installer dans des cabanes, dans les arbres, plusieurs jours d'affilée pour passivement, mais activement, occuper les lieux et empêcher ce projet. Vous viviez jusqu'à peu en Loire-Atlantique, pas très très loin de Notre-Dame-des-Landes, pas très loin de d'autres zones d'occupation à défendre, ces fameuses ZAD, comme on les appelle. Qu'est-ce qui, à un moment donné, a été un déclic et a créé l'urgence d'écrire ce texte-là ?
J'habitais dans un petit village qui s'appelle Saint-Fiacre-sur-Maine, qui est au sud de Nantes, dans le Vignoble. À 4 km de là, il y a un village qui s'appelle Montbert. Et Amazon devait construire une plateforme de 200 000 m², détruire une forêt, assécher un étang, pour en faire une plateforme logistique qui prévoyait un passage de 20 000 véhicules par 24 heures. Voilà. On s'est beaucoup battu contre ça, pour l'aspect écologique de la chose. Et puis aussi parce que, qu'est-ce que ça signifie Amazon ? Amazon, on sait très bien qu'un emploi, c'est l'une des pires sociétés du monde en termes de... En termes d'emploi, c'est un des pires systèmes commerciaux mondiaux.
En termes de conditions de travail ?
Des conditions de travail atroces, pas de syndicats, pas de protection des salariés, des emplois extrêmement précaires. Et un emploi créé chez Amazon, c'est 4,5 emplois en moins dans le monde en moyenne. Des destructions de biens. Vous savez, Amazon, ils mettent la pression sur les fournisseurs. Les fournisseurs fabriquent quelque chose. Je ne sais pas, un petit canard en plastique jaune qu'on met dans la baignoire. Ils vont en fabriquer plein pour que Amazon les ait au prix le plus bas. Amazon les stocke dans ses plateformes logistiques et s'ils ne les vendent pas, ils les détruisent. Et le fournisseur a perdu la mise. Voilà. Et donc, c'est aussi écologiquement catastrophique. C'est une fiscalité floue. C'est une entreprise où il y avait un type qui s'appelait Richard Ford qui a créé le travail à la chaîne, plus ou moins, aux États-Unis, au début du XXe siècle, et qui disait que entre le plus haut salaire d'une entreprise et le plus bas salaire d'une entreprise, il fallait pas que ça dépasse les 200%. Voilà. Amazon, c'est plus d'un million de décalage entre le salaire le plus haut et le plus bas. C'est-à-dire que Jeff Bezos gagne toutes les 10 secondes le salaire annuel moyen de ses employés. Toutes les 10 secondes. Voilà. Et c'est un système complètement indécent. Donc, enfin, voilà. Pour tout ça, on s'est beaucoup battu contre. Alors, c'était en plein pendant les confinements. J'avais découvert que pendant le Covid, sur les attestations de déplacement dérogatoire, on avait le droit de manifester. Et je ne sais plus quelle case il fallait cocher. On pouvait aller sortir, manifester. On s'est beaucoup, beaucoup battu. Les gens de la ZAD, que je connaissais un peu de Notre-Dame-des-Landes, il y avait un projet d'aéroport surdimensionné à côté, sont venus donner un coup de main et Amazon s'est retiré du projet. Voilà, il y avait trop de bruit, ils se sont retirés du projet. Et en même temps, sitôt le Covid fini, moi je suis parti, j'ai été invité par la médiathèque de Longwy en Lorraine. Je
suis parti en résidence, du coup.
En résidence d'écriture. Je suis parti dans ce coin-là. J'ai découvert ce coin qui avait été une région sidérurgique avec des grandes usines, etc. Et quand toute cette sidérurgie a disparu, il y a un taux de chômage assez incroyable. C'est un espèce de désert. Longwy, c'est terrible. C'est une ville. Il n'y a plus de centre-ville. Centre-ville, tout est fermé, tout ça. Enfin, c'est assez terrible. Et j'avais cette aventure d'Amazon en tête. Et en fait, ces choses se sont cousues. Voilà. Ça s'est cousu petit à petit.
Thomas, il raconte cette histoire 3 semaines après. Ses amis, ses copains lui disent il faut que tu écrives ce qu'on a vécu. Je n'avais jamais réfléchi à ça en lisant un livre avant. À moins de n'avoir aucune conscience, l'auteur a des comptes à rendre. Il doit faire de son mieux. J'ai envie de laisser tomber. Je n'ai pas demandé à avoir ses responsabilités. Seulement, j'ai besoin d'écrire ce texte pour moi, pour les autres, pour qu'il reste quelque chose de nos rires et de nos espoirs. Les mots seront une victoire. On peut reconstruire le passé avec des mots. On peut faire revivre un rêve. Alors je tente. Est-ce que d'emblée, vous saviez que l'histoire allait être racontée après? Ou est-ce que vous avez commencé à établir votre récit pour ensuite en trouver la forme narrative?
Non, alors je suis très 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 confus quand j'écris. Je teste des trucs. Voilà, ce que je savais un certain nombre de choses. Dans ce livre, Le soleil est nouveau chaque jour, je retrouve, ils sont 16 jeunes gens à être installés dans des cabanes dans des arbres, parfois seuls, parfois en couple. Je retrouve...
Parfois en couple, puis seul.
Puis seul, oui, puisque... En fait, oui, enfin, voilà. On va en parler, mais c'est pas un tract. Hein, c'est pas un tract politique, ce livre. C'est aussi un roman avec des personnages qui vont vivre, qui vont s'installer. Et ça va créer des tensions entre eux. Enfin, voilà, comme tout projet collectif, il y a un moment où ça s'écarte, où ça s'affronte, où des histoires d'amour ou de désamour se rajoutent à ça. Et ça devient très compliqué, humainement parlant, de mener ce projet. Mais ce que je savais, c'est que j'avais envie de retrouver certains personnages. Donc, il y a des personnages qui viennent de romans précédents, voilà, que j'ai mis dans ces arbres. Il y en a 8 déjà présents et 8 nouveaux. Voilà, Thomas, j'avais envie qu'il soit le narrateur. Thomas était le narrateur de Plus haut que les oiseaux, tout premier roman jeunesse que j'ai écrit il y a 13 ans maintenant. Et j'avais envie de le retrouver. C'est la première fois que je retrouve un narrateur, vraiment, que je
remercie. Il n'a pas vieilli très vite, lui.
Il a pris 6-7 ans.
En 13 ans.
En 13 ans,
ouais, ouais, enfin, j'aime
voilà.
Bien.
Oui, on fait ce qu'on veut, on est écrivain, hein. C'est Europe. On est les maîtres
du jeu. Je
veux ça,
moi. Ouais. Je veux être lui.
Voilà, on est les maîtres du jeu. Hein. C'est nous qui décidons. J'avais envie de retrouver certains personnages. Je savais qu'ils seraient nombreux. J'aime pas trop les structures de romans polyphoniques. Vous savez, vous avez un chapitre, c'est machin qui parle, un chapitre, c'est machin qui parle, un chapitre. Là, c'est en tant que lecteur. Hein. Ça me met toujours plus ou moins à distance. J'aime bien qu'un personnage me... J'aime bien avoir un personnage, ressentir de l'empathie pour lui et suivre un personnage. Donc j'avais envie qu'il y ait un seul narrateur, même s'ils sont très nombreux. Et puis ensuite, j'ai essayé, j'ai fait des petits bouts. Je commence jamais par le début quand j'écris un roman. J'essaye, je cherche la voix des personnages, je fais des essais, je regarde. Et puis à un moment, j'ai l'impression que bah voilà, c'est comme ça. Ça tient. Je sais pas l'exprimer autrement, c'est pas théorique. C'est beaucoup plus sensible que théorique.
C'est instinctif.
C'est assez
oui. C'est votre corps qui dit un peu.
Ouais, ça je sais que ça tient et puis que ça va être comme ça. Donc en effet, c'est un récit a posteriori, je commence, tout est déjà fini, tout s'est achevé. On sait pas exactement ce qui s'est passé. On sait que ça s'est fini bien et fini mal en même temps. Voilà, on n'a pas les détails.
On sait qu'il y a eu un drame, mais on ne sait pas lequel.
On sait qu'il y a eu un drame, voilà. Et petit à petit, on reprend l'histoire à rebours. Et une fois que j'avais cette structure, je sens que c'est solide et je ne la remets plus en question, en fait. Voilà, je vais jusqu'au bout et on verra bien ce que ça donne.
C'est intéressant ce que vous dites. Je ne commence jamais par le début. Peut-être que parmi vous, petits et grands, il y a des gens qui écrivent. On peut avoir peut-être l'idée que... Comme un cinéaste tournerait la première scène puis la deuxième, ce qui est rarement le cas.
Oui. Les films aussi.
Les films ne font pas ça non plus, mais un roman non plus. C'est pas l'idée de j'écris la première phrase puis la deuxième et puis je l'écris jusqu'à la fin. Parfois on a une scène qui est au milieu. Parfois on commence par écrire une scène qui sera plus du tout là dans le roman, qui finalement n'existera plus, mais elle aura été nécessaire à un moment donné. Et puis, ça prend forme petit à petit, mais c'est une matière beaucoup plus vivante et aléatoire, en fait, que le projet qu'on a entre les mains ensuite.
Oui, en tout cas, c'est ma manière d'écrire. Je connais des écrivains qui font un plan, qui font des fiches personnages, qui prennent
des
photos, qui ont des tableaux, qui utilisent parfois même des logiciels de scénario pour faire des structures et éviter qu'on perde de vue un personnage trop longtemps sur des romans un peu voilà. Et c'est leur méthode. Enfin, ils sont très architectes. Moi, pour filer la métaphore, moi je suis pas architecte, je suis jardinier. Je plante une graine. Je suis même pas sûr de savoir ce qui va pousser. J'arrose et puis je regarde ce qui pousse. Mmh. Voilà. Et je suis un peu surpris par ce qui pousse parfois. Et ça c'est ma méthode. Voilà. Et ce que j'ai besoin par contre, c'est de sentir la voix du personnage. Donc je cherche beaucoup la manière dont va s'exprimer le personnage principal. Et une fois que je tiens cette voix, ça me donne une idée assez précise de comment ça va se passer. Avant, j'ai un sujet, évidemment. J'ai des idées, j'ai des envies, voilà, il se passe des trucs dans les livres que j'écris quand même. Parfois, j'ai la fin, parfois, je ne l'ai pas du tout. Et la fin vient en cours de route. Mais je suis extrêmement démuni quand on me dit « Mais est-ce que tu peux me résumer ton livre, tout ça, avant que je l'ai écrit ?» Parce qu'en fait, c'est encore trop tôt, je ne sais pas, ça peut changer, vraiment. J'ai des romans qui sont partis... Je pensais aller là et en cours de route, je me suis rendu compte que, en fait, je voulais aller là-bas. Et ce qui fait qu'il faut effacer tout ce que j'ai fait avant. Mais ce n'est pas grave, ça fait partie du travail d'écriture. Comme j'imagine quand on dessine, on fait des croquis, on les efface, on en refait d'autres. Enfin voilà, on transforme. Pour moi, c'est ça. Je planifie pas énormément. J'ai besoin d'une co-invention. J'invente comment ça parle en même temps que j'invente de quoi ça parle.
Et le texte s'invente aussi un peu.
Et le texte s'invente par lui-même, oui. Et puis il y a des hasards. Il va se passer un truc brusquement dans l'actualité. Je ne sais pas si vous avez regardé les informations. Il y a eu, depuis que ce livre est sorti, il y a eu une occupation. Il y a des gens qui sont montés dans des arbres à côté de Toulouse pour empêcher le tracé d'une autoroute. Il s'est passé un truc que je n'aurais jamais imaginé dans ce roman-là. La police les a tirés dessus, quoi. Ils sont dans des arbres, ils sont à 10 mètres du sol, ils ont tiré dessus au flashball, quoi. Ce que j'ai pas imaginé dans Le Soleil est nouveau chaque jour. J'ai jamais imaginé que les flics
dégomment
des gens à 15 mètres du sol. Mmh. Sauf là, ils l'ont fait sur le pendant l'autoroute, pendant cette occupation d'une forêt qui était sur le tracé d'autoroute à 69. Donc évidemment, si ça s'était passé pendant que j'étais en train d'écrire, le roman est sorti avant, ça aurait réellement modifié la structure du roman. Voilà. Mmh. Des fois, il y a un fait divers dans les journaux, un truc que je vois dans la rue, ça va immédiatement rentrer dans l'écriture. Je me permets cette perméabilité-là et cette ouverture-là à ce qui est en train de se passer autour de moi.
Dans l'actualité, dans votre vie aussi, et vous dites « je me permets votre perméabilité », moi j'ai à l'inverse l'impression que ce qui fait que vous êtes écrivains les uns les autres, c'est votre perméabilité justement. Est-ce qu'on peut être écrivain si on est complètement hermétique à ce qui nous entoure? Ça me paraît difficile. Donc c'est sans se le permettre, vous avez cette perméabilité, cette écoute. Vous avez prononcé deux mots, architecte et jardinier. L'architecte jardinier, il fait des cabanes.
Oui.
Il fait vraiment des cabanes. Parfois, il pose une graine et c'est une cabane qui pousse. C'est une citation de Marielle Massé qui ouvre votre roman. Faire des cabanes, imaginer des façons de vivre dans un monde abîmé. Faire des cabanes en tout genre. Inventer, jardiner les possibles. Sans craindre d'appeler cabane des huttes de phrases, de papier, de pensées, d'amitié, des nouvelles façons de se représenter l'espace, le temps, l'action, les liens, les pratiques. Faire des cabanes pour occuper autrement le terrain, c'est-à-dire toujours, aujourd'hui, pour se mettre à plusieurs. Une très jolie phrase de Marielle Massé.
J'ai été très content parce qu'il y a une librairie à Paris au printemps qui nous a proposé une rencontre
croisée. Ensemble.
On a discuté ensemble.
Dans une cabane.
Alors on est dans une librairie, ce qui est une cabane en papier comme une autre. Voilà. C'est peut-être d'ailleurs la maison des trois petits cochons, la plus solide, c'est celle qui est en papier. Mais ça, il faut réécrire l'histoire pour comprendre ça. Et on a discuté avec Marielle, que je connaissais avant, mais j'étais très content. Voilà, moi, je parlais de nos cabanes, elle parlait du soleil nouveau chaque jour. Ça arrive assez peu qu'il y ait du décloisonnement. Quand j'écris des romans jeunesse, je vais rencontrer des auteurs de romans jeunesse. Quand j'écris un récit, je vais rencontrer des auteurs de récits. Et là, voilà, quelqu'un qui fait des essais poétiques avec quelqu'un qui fait des romans jeunesse, être invité ensemble, c'était très chouette, cette expérience-là. J'aime beaucoup ce décloisonnement-là.
Le titre, Le soleil est nouveau chaque jour, est tiré des fragments d'Héraclite.
Oui.
Moi, je la connaissais plutôt sous la forme « On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve », ce qui veut dire un peu la même chose. C'est-à-dire que ben, qui que l'on soit, si on a beau aller à la même rivière tous les jours, comme on n'est jamais la même personne du jour au lendemain, on n'aura jamais la même expérience, sans compter que la météo va changer, qu'on n'aura peut-être pas le même maillot de bain, qu'on ne sera pas avec les mêmes gens, que la température sera différente. Bref, vivre deux fois une expérience exactement identique, ça n'est pas possible. Le soleil est nouveau chaque jour, c'est votre titre. À quel moment vous vous êtes dit, tiens, ça va être la phrase qui sera sur la couverture?
En étant assis dans le public à une rencontre littéraire où c'était Jean-Christophe Bailly qui parlait, et il a cité ce fragment d'Héraclite, j'étais en pleine écriture du Soleil est nouveau chaque jour, qui pour l'instant s'appelait Les arbres. Ce qui n'est pas un super titre de manuscrit. Mais j'évite de donner... Alors, sauf si j'ai le titre avant, la première fois que j'ai écrit un roman pour l'École des loisirs, qui s'appelle donc « Plus haut que les oiseaux », mon manuscrit s'appelait « Là-haut ». Et au moment où je l'ai envoyé à mon éditeur, le Pixar est sorti. La maison, le scout, le vieux bonhomme, les ballons, les chiens qui parlent. Donc depuis, j'ai une superstition avec École des loisirs. Mon titre est nul et je cherche un titre quand l'écriture est vraiment presque achevée. Et donc j'ai entendu cette citation, et ce qui me plaisait bien dans cette citation, c'est ce possible-là. C'est-à-dire que le soleil est nouveau chaque jour, ça veut dire que si aujourd'hui on a passé une journée de merde, pour le dire clairement, demain c'est un jour neuf qui arrive. Voilà. Et je trouvais que ça, en tout cas ça touchait quelque chose de profond chez moi. Le monde il est dur, le monde est violent. Je regarde l'actualité en ce moment entre la guerre en Ukraine, entre Gaza et maintenant l'attaque du Liban, entre la montée des extrêmes droites, le fait qu'aux dernières élections, j'ai voté à gauche et j'ai un gouvernement de droite, alors que la gauche a eu plus de voix. Enfin bref, le monde est extrêmement difficile. Le monde est très, très compliqué. Le monde fait peur. Et soit on se dit que bah, c'est foutu, soit on essaye de faire quelque chose à notre petite échelle. Voilà. Et je trouvais que le soleil est nouveau chaque jour. Pouvez suggérer ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est difficile, c'est la merde. Et demain, on peut essayer de garder espoir et on peut essayer de faire un petit quelque chose. Voilà. On nous présente le monde comme inéluctable, on nous présente tout comme verrouillé, comme c'est pas possible, comme ça servira à rien. Et on en crève, quoi, de ce poids-là. Et donc, si on se dit pas qu'on peut faire quelque chose, on est foutu. Et en fait, c'est ce qui anime ces jeunes gens dans le roman. Et c'est ce qui m'anime, moi, quand j'écris, en tout cas.
Vous avez évoqué les arbres comme peut-être possible titre provisoire. Juste signaler que sur la couverture, ce sont des souches de troncs d'arbres qui l'illustrent, qui forment comme des petits soleils. Mais voilà, parfois, il faut regarder d'un peu près pour voir le motif. Et puis des feuilles d'automne qui tombent. C'est peut-être après l'événement. Les jeunes, dans leur élan, dans leur détermination, communiquent auprès de la presse. Et leur communiqué de presse s'intitule « L'espérance joyeuse des luttes ». Je me disais que ça aurait pu aussi faire un très beau titre, « L'espérance joyeuse des luttes ».
C'était mon plan B au niveau des titres.
Du coup, vous l'avez recyclé dans le communiqué.
Et je l'ai recyclé dans le communiqué parce que je fais des listes, tout en m'interdisant de trouver un titre, je fais des listes de titres souvent. Enfin, sauf quand il est évident. Ça m'arrive parfois que j'ai le titre avant de me mettre à écrire. Et pour moi, le titre est évident. Mais je fais des listes de titres. Et l'espérance joyeuse des luttes, c'était un titre provisoire. Et j'ai changé pour le soleil quand j'ai découvert cette citation-là.
Le soleil, il est présent non seulement sur la couverture, mais tout au long du texte aussi. Et pour moi, en tant que lectrice, il a fait comme un petit point cardinal qui me guidait, puisqu'il intervient à de nombreuses reprises, et notamment « À l'est, le soleil revient. À l'est, le soleil est maintenant levé. Le soleil est une boule de feu qui n'en finit plus de dégringoler à l'ouest, ou un peu plus loin. La police est revenue avec le soleil, ça c'est après 5 jours de pluie. Est-ce que là aussi, c'est le sujet, l'écriture, le fait qu'il soit dans la nature qui impose que le soleil soit présent? Ou est-ce que vous en avez fait un motif un peu à part en disant ben, « j'ai envie là, de ce compagnonnage avec ce soleil que j'annonce de la couverture et qui va guider, finalement, marquer les étapes dans le temps qui passe de cette lutte ?»
Non, non, je ne suis pas assez intelligent pour penser des choses comme ça.
Vous pouvez faire croire, dire
non,
oui,
non,
j'ai fait
non,
ça.
Non, non, c'est vraiment... comment dire? Quand j'écris, j'essaye vraiment de me mettre à la place de mes personnages. Donc, ils sont dans des cabanes, ils ont installé des cabanes provisoires dans les arbres. Un jour passe, et puis un deuxième, et puis un troisième, et puis un quatrième. Donc, forcément, ils sont pris... ils ont affaire avec les éléments. Il fait beau, il fait pas beau, il fait froid, il fait chaud. Le soleil se lève, il y a du vent, il y a de la pluie, etc. Et, Et c'est quelque chose que je voulais pas éluder non plus parce que encore une fois, le roman c'est un espèce de petit univers complètement autonome, et dans cet univers-là, j'avais envie que le sensible soit aussi important. Voilà. Et donc ce rapport là à la nature, oui, je voulais qu'il soit là au quotidien. Et tout comme le rapport au corps, on a des fourmis dans les jambes, on bouge plus, on en a marre, on attend, on a une impatience. Enfin voilà, tout est à partir du moment où le principe était là, les cabanes, les arbres, un siège, la police est en bas, eux ils attendent, la police attend aussi, ils arrivent à communiquer grâce aux réseaux sociaux, tout ça ils ont mis en place, et ils ont petit à petit une espèce d'immense élan de solidarité qui va vers eux, mais également ils sont appelés éco-terroristes et ainsi de suite. Voilà, certains médias les soutiennent et d'autres médias les cassent complètement et les décrédibilisent. À partir du moment où ça c'était en place, je savais qu'il y allait du temps qui allait passer. Et dans ce temps, ça me permet à la fois de parler de l'environnement, ça me permet aussi de parler de leur corps, ça me permet aussi de parler de la cohésion de leur groupe qui va s'effriter petit à petit, entre certains membres tout du moins. Voilà, c'est les événements. Et quand j'imagine, en tout cas, quand on est coincé dans une cabane à 15 mètres, le lever du soleil, c'est un événement. Tout comme la pluie qui va arriver, tout comme le coucher du soleil, tout comme un vent un peu particulier, tout comme un balancement de l'arbre un peu particulier, tout ça sont des micro-événements que j'avais envie de mettre dans le roman. Et puis c'est un chouette pari d'écriture aussi. Enfin voilà, c'est en termes de avec mes 26 lettres et ma ponctuation, qu'est-ce que je vais en faire de ça? Oui.
Vous avez dit que c'était une occasion de les rapprocher de la nature. Ces jeunes-là, ils sont dans leur cabane, ils sont dans les arbres. Du coup, ce n'est pas tout à fait leur lieu de prédilection au départ. Hein. Ils sont plutôt souvent soit dans leur chambre, soit au lycée. Et donc là, c'est un poste d'observation un peu différent. Ça permet de prendre aussi un peu de la hauteur par rapport à ce qui se passe. Mais Thomas nous raconte, nous avons pris un nom de guerre, les Phylloscopus. Ce sont de petits oiseaux communs de la famille des Pouillots. Leur nom signifie qu'ils regardent dans les feuilles. Comment est-ce que vous avez trouvé ce nom d'oiseau pour leur nom de groupe?
Je ne sais plus. J'aime bien, en fait, quand je vois des oiseaux. Alors, j'habite dans une forêt maintenant. Quand je vois des oiseaux, j'aime bien savoir comment ils s'appellent, tout ça. Parce qu'on nous a... J'en reviens toujours à cette étude américaine qui date d'il y a maintenant une petite dizaine d'années, qui est citée par un auteur qui s'appelle Baptiste Morisot, où il explique qu'aux États-Unis, on a montré à des enfants de 3 à 9 ans 1000 logos de marques, et les enfants étaient capables de tous les identifier. Et ensuite, on leur a demandé de regarder dans leur environnement. Ils étaient capables d'identifier 10 végétaux au maximum. Voilà, 10, si on prend tout de la rose au platane, hein. Voilà, ils étaient capables d'identifier 10 végétaux. Donc, j'essaye de lutter contre ça, et j'essaye quand je me balade en forêt, tout ça, j'aime bien regarder comment s'appelle cette plante, comment s'appelle cet animal, comment, avec un cri, c'est qui celui-là qui vient de m'engueuler parce que je rentre sur son territoire. Là, j'ai beaucoup joué cet été avec un brocard, qui est un jeune mâle cerf, qui m'aboyait dessus quand je rentrais dans son territoire en forêt. Le brocard aboie vraiment, comme un chien. Là, j'ai beaucoup joué avec lui. Je suis tombé sur lui 2-3 fois. Il me tournait autour en aboyant, en restant toujours à 20-25 mètres. Mais voilà, j'aime bien ça aussi. Voilà. Et cette précision du vocabulaire, cette
poésie aussi.
Oui, il y a une poésie dans savoir nommer les choses. Voilà.
Et puis dans les mots eux-mêmes, Phylloscopus, ouais, c'est assez,
ouais,
joli.
Oui, ouais, c'est un joli mot. Et savoir nommer ce qui nous entoure fait partie aussi de... C'est le considérer. Si on a les arbres, les oiseaux, la nature, et puis point, on s'en fout de savoir qu'un sixième des oiseaux disparaissent. C'est une masse, il en restera toujours assez. Voilà. Plus on nomme, plus on rentre dans le détail, plus on porte de l'attention à ce qui est autour de nous, voilà, tout simplement.
Et de la nuance,
et de la compréhension, ouais,
et de l'attachement.
Voilà. Vous dites ça bien mieux que moi.
Comme ça, naturellement. Je n'ai pas trouvé la ville d'Assiange sur la carte.
Non.
Et bien, elle est où, du coup?
Bon, allez, en fait, c'est assez rigolo. Bon, la Lorraine, en gros, tout ce secteur sidérurgique, j'ai beaucoup, quand j'étais là-bas, ça ne se sent pas dans le roman, mais j'ai beaucoup rencontré d'anciens syndicalistes, des gens qui avaient travaillé vraiment dans mes usines. En fait, tout ce secteur de Lorraine, toutes les villes finissent par Ange. Et donc, j'ai commencé par Acier, j'ai fini par Ange, ça fait Assiange, et c'était parfait.
Voilà. Et c'était fait. Vous choisissez un mode de lutte plutôt pacifique, passif, d'occupation, et pas un mouvement de lutte qui soit armé, agressif, avec des lacrymos, avec des scènes qu'on a pu avoir, des scènes d'affrontement directement avec les forces de l'ordre. C'est plutôt voilà une sorte d'élévation de ce groupe et d'occupation de la nature pour résister avec les arbres. Pourquoi ce mode-là ? Est-ce que vous avez hésité ? Est-ce que c'est vraiment le tempérament de vos personnages qui vous a guidé vers ça ? Est-ce que c'est plutôt votre mode de résistance à vous ?
Oui, c'est un peu tout ça, c'est mon mode de résistance. Mais les jeunes gens font tous le récit de pourquoi ils sont là. Et il y a une des personnages du roman qui raconte qu'elle est un jour dans une manifestation, au sitting, elle est assise. Et puis, brusquement, les CRS chargent, ils se prennent des lacrymos plein la tête. Elle se prend des coups, elle avait une guitare, sa guitare, un CRS l'explose sous ses bottes. Ah, il y a de l'événement sur la place. Voilà.
Ça va.
Bon, c'est pris en charge.
Merci d'intervenir.
Voilà. Et donc, la violence m'effraie, d'une manière générale. Voilà. Je trouve la violence assez effrayante. Les gestes de violence m'effraient. Elle est très contre-productive. Et elle est surtout l'arme et l'outil du puissant. Ou du fou. Mais bon... Et donc, j'avais pas envie qu'il rentre dans une violence. Voilà. Même si j'ai beaucoup manifesté, j'ai beaucoup été gazé, j'ai beaucoup couru, j'ai beaucoup évité des types en civil qui brusquement sortent une matraque devant vous et essayent de vous flanquer un coup au passage. Même si je la comprends, cette violence. Voilà. Je comprends qu'à un moment... Il y a une certaine tentation de la violence. Mais je n'avais pas envie d'en passer par là.
Mmh. En tout cas, que vos personnages aussi soient confrontés. Elle va la rattraper un peu, cette violence-là, mais voilà, c'est plutôt...
Oui, elle va forcément les rattraper. De toute façon, ils sont en situation de désobéissance civile, et donc forcément, la violence les rattrape à un moment ou à un autre. Oui.
C'est aussi un très beau livre d'amour entre deux personnages. C'est une histoire de lutte, évidemment, de nature, de regard sur la nature. Mais c'est aussi un très beau livre d'amour. C'est Thomas qui raconte. Thomas, il aime beaucoup, beaucoup Clara. Et je vous lis ces quelques phrases que je trouve très délicates. « Longtemps, très longtemps, plusieurs minutes d'affilée, je cherche à croiser son regard. Elle est occupée à envoyer des messages sur son téléphone. Elle remet en place une mèche derrière son oreille droite. Elle gratte sa cuisse. Elle lève les yeux quand le vent agite les feuilles au-dessus de nos têtes. « Quoi ?» dit-elle quand elle finit par réaliser que je l'observe en silence au bout d'une éternité. Il y a ce temps qui est long pour observer la nature, mais il y a aussi ce temps de Thomas intérieur qui est dans cette tension avec Clara. Leur relation va évoluer pendant le roman, mais c'est ce regard très délicat qu'il pose sur elle et ce regard très amoureux des simples gestes qu'elle peut commettre et qui lui procure une émotion.
Merci d'avoir cité ce passage. En fait, ce passage... C'est moi. Hein. Enfin voilà, j'invente pas complètement. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être amoureux de quelqu'un, vous regardez la personne et puis elle vous regarde pas du tout et puis à un moment elle sent votre regard et elle est presque agacée que vous la regardiez. Elle dit quoi, qu'est-ce qui se passe ? Enfin voilà et bam, voilà. Donc voilà, c'est une situation de la vie quotidienne ça.
Mais c'est Thomas qui la vit cette fois-ci.
Oui, non, mais c'est génial les romans parce qu'on vit plein de trucs et ensuite on les offre à un personnage de fiction. On lui dit tiens, ça c'est à toi. Voilà. C'est pour ça qu'on écrit des romans aussi.
C'est à toi de le vivre. Les adultes sont un peu présents quand même dans le texte et le père de Thomas a une grande place, un grand rôle. Il est très militant lui aussi. Il a fait partie de plusieurs combats et donc il est pas en rupture Thomas avec sa famille. Il est plutôt dans une sorte de continuité d'idéologie, de militantisme. Comment est-ce que vous avez conçu ce dialogue-là, cette transmission entre générations ? Est-ce que c'était vraiment cette idée-là de dire allez, on se passe le flambeau, il faut que ça continue ? Ou est-ce que c'était une complicité père-fils que vous aviez envie d'explorer ?
Oui, non, c'est, enfin, les deux. Mais en fait, ce qui m'intéressait, donc comme je l'ai déjà dit, Le Soleil est nouveau chaque jour est mon 9e roman à l'école des loisirs. Tous mes livres sont indépendants, mais des personnages sont récurrents, des situations sont récurrentes, des personnages vieillissent en temps réel, on les retrouve. Et ça, Thomas et son père, on les a déjà vus dans des livres précédents. Alors, ce n'est pas grave si on ne les a pas lus. Hein. C'est vraiment très indépendant. Je m'amuse comme ça à tisser des passerelles. Et ce qui m'amusait aussi beaucoup dans Plus haut que les oiseaux, le tout premier, c'est que Thomas, au début, fait une immense connerie. Et je ne voulais pas qu'il y ait de justification sociologique. Je m'explique très vite. C'est pas parce que il fait une connerie, pas parce que ses parents s'occupent pas de lui, pas parce qu'il a des parents qui sont négligents ou violents, etc. Ses parents sont idéaux, quasiment. Mais ça n'empêche que voilà, c'est un individu et il va commettre une immense connerie au début du roman. Voilà. Et j'avais mis en place quelque chose sur un rapport entre Thomas et son père que j'ai eu envie de plus pousser là-dessus. Ce que j'avais envie de mettre en avant dans Le Soleil Nouveau Chaque Jour, c'est que son père est un militant politique. Il a été encarté dans des partis politiques, il est toujours encarté, il fait partie de l'opposition municipale, il est élu à la ville où ils habitent, qui est Nantes, en fait, ça se passe à Nantes. Mais voilà, il est élu, il est, enfin, en banlieue de Nantes. Voilà, il est élu dans un endroit qui n'existe pas vraiment, puisque Thomas va partir en Lorraine, mais il vit en Loire-Atlantique, dans une ville qui n'existe pas vraiment, qui sera en banlieue de Nantes. Il est élu de l'opposition, il est de gauche, il a des profondes convictions ancrées à gauche, il a été militant lui aussi. Et son père continue à croire à l'action politique, c'est-à-dire à l'action politique traditionnelle. Et Thomas, il n'y croit plus du tout. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que je vois chez pas mal de jeunes. Et malheureusement, ce qui vient de se passer aux dernières élections, ça leur donne un peu un argument de plus. C'est-à-dire que les partis politiques sont des machines lourdes, avec des systèmes d'alliances. Et c'est extrêmement compliqué d'agir depuis des partis politiques traditionnels. Et donc, il y a cette opposition-là entre un père qui est très militant, qui est élu, qui fait des actions, et Thomas qui lui dit « Mais tu vois pas que le monde change plus vite que ta modalité d'agir politiquement ? Et il faut qu'on y aille, quoi. Voilà, il faut agir non plus dans le cadre d'un parti traditionnel, mais dans le cadre d'organisations citoyennes, autogérées. » Voilà. Et donc, il y a un vrai conflit de génération. Il partage les mêmes convictions avec son père, mais ils ont un vrai conflit de génération sur la manière d'agir. Et ça, je trouvais, ça, j'avais envie d'en parler, voilà, vraiment, de le mettre dans le texte.
Tu n'imagines pas à quel point la bureaucratie fait des ravages. Chaque jour, je me bats contre l'inertie, contre l'opposition et contre les arrivistes et les carriéristes. Au moins, quand tu es face à un gars de l'extrême droite, tu sais que c'est ton ennemi. Mais il faut aussi se battre contre ses prétendus ennemis, les types qui ont la même couleur politique que toi, mais qui sont élus pour se servir en premier et qui ne pensent qu'à leur gueule. Ça, c'est l'un des propos du père. Peut-être finir sur cette... contrebalancer un peu le propos. À un moment donné, on se penche aussi sur la question de... Parfois, les maires acceptent ce genre de projet parce qu'ils se disent que ça peut relancer l'économie locale dans ces zones qui sont un peu abandonnées, qui sont plus florissantes. On peut comprendre certaines motivations de se dire peut-être que là, ça pourrait créer de l'emploi et relancer une activité.
Oui, bien sûr. Oui. C'est ce qui se passe dans le roman. C'est-à-dire que cette ville qui n'existe pas d'Assiange, le maire a appelé Amazon, qui n'est pas cité, mais a appelé Amazon de ses voeux. C'est lui qui a proposé à Amazon de s'installer là en se disant « Ma ville est sinistrée, il y a eu la crise de la sidérurgie et Amazon va recréer un dynamisme local. » Voilà. Ce qui est certainement vrai d'un point de vue macro sur le lieu en tant que tel, mais comme tout est interconnecté et tout est lié, ce qui est une catastrophe à une échelle plus vaste, quoi. Voilà. Et donc oui, bien sûr, tout est ambivalent. Enfin, il n'y a pas les gentils, les méchants, les bons, les mauvais. Enfin, le monde n'est pas comme ça. Le monde est bien plus complexe que ça. Et cette ambivalence-là, elle est. En tout cas, j'essaye de travailler avec aussi et de la mettre dans chaque livre que je peux écrire.
Est-ce que Le Soleil est nouveau chaque jour à chaque livre pour vous aussi ? Est-ce que vous avez le sentiment, après ces nombreux livres écrits, d'être quand même au commencement de quelque chose de nouveau éternellement ? Ou est-ce qu'il y a des choses qui se sont installées, des petites habitudes, des rituels qui font que vous avez moins d'appréhension maintenant avant de commencer un projet ?
Non, c'est toujours pareil. En fait, j'ai publié 50 livres en 25 ans dans 7-8 genres littéraires différents. Et c'est toujours la même, à la fois la même appréhension. Je détesterais l'idée de ne pas me renouveler, de ne pas de repasser sur mes propres pas, de refaire deux fois la même chose. Je détesterais vraiment cette idée-là. Donc, je me déplace en permanence. Je vais vers des genres littéraires vers lesquels je ne suis pas encore allé. Je viens de finir un roman de science-fiction. J'essaye de me déplacer en permanence. Et la seule lutte à faire, c'est parfois on se dit à quoi bon, quoi. Ouais, je vais faire un bouquin de plus. Waouh. Voilà, je vais faire un livre qui sera lu, qui sera pas lu, qui sera vu, qui sera pas vu, qui ça change en rien la violence du monde. C'est l'inverse de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que parfois je suis tellement assommé par l'actualité chaque matin, je suis tellement assommé par tout ce qui va mal sur notre planète que je me dis mais à quoi ça sert de rajouter un bouquin de plus là-dedans, quoi. Voilà. Et puis après d'une certaine manière, malgré tout, quelque chose renaît. C'est souvent la colère, d'ailleurs. Je me rends compte que j'écris souvent. Il y a souvent un geste de colère au début, quand je me mets à écrire. Et la colère fait que quelque chose va se remettre en place et que j'ai envie de repartir à nouveau et que j'ai envie de relancer des choses. Voilà. Donc, à chaque fois, je vais chercher loin pour repartir comme ça. Voilà. C'est jamais simple. Et si vraiment il y a un endroit... Je suis prêt à faire plein de concessions dans ma vie, mais si vraiment il y a un endroit où je ne veux pas tomber dans ma routine, où je ne veux pas... j'ai écrit beaucoup de livres, j'ai vraiment pas envie de faire un livre de trop. Alors c'est très immodeste, ça peut paraître très mégalomane ce que je suis en train de dire, mais j'ai vraiment pas envie de faire un livre de trop, c'est-à-dire que je veux que chaque livre soit un vrai projet, pensé, réfléchi, porté, voulu, désiré. Il y a beaucoup une histoire de désir dans l'écriture aussi. Donc voilà, donc des fois je mets du... Là, je suis passé par longtemps avant de... Je suis à nouveau en train d'écrire, là. C'est assez fragile, mais j'ai mis du temps avant de remettre du charbon dans la machine pour accumuler suffisamment de choses pour me dire, allez, j'y vais à nouveau. Voilà. Mm-hmm. Oui.
C'est ni modeste, ni mégalo. C'est de vous par rapport à vous. C'est-à-dire que tant que vous êtes dans cette énergie-là, vous avez besoin de ce sens-là, en tout cas. Pour y aller. Une dernière question avant peut-être de vous passer la parole si vous avez envie de réagir à ce qui vient d'être dit. Est-ce que vous avez pu rencontrer des jeunes autour de ce livre-là et quels ont été les échanges, les réactions ?
Alors, globalement, il y a des jeunes gens dans la salle. Le motif écologique, parce que oui, le livre est sorti en septembre de l'année dernière, donc j'ai déjà rencontré des jeunes avec ce livre. Il y a aussi des profs qui ont obligé leurs élèves à le lire. Donc, j'ai rencontré des classes d'otages. Globalement, j'ai quand même l'impression que le motif écologique ne vous intéresse pas du tout. Voilà, qu'on rase une forêt, tout ça, pour construire un truc Amazon. En plus, vous trouvez ça plutôt chouette, Amazon. Donc, ça ne vous intéresse pas vraiment. Par contre, les endroits où il y a eu des échos très forts, c'est sur la désobéissance civile, c'est-à-dire voilà, quelque chose que l'on sent qui est vraiment vécu de façon très profonde comme étant très injuste, on se met en place, on essaye de lutter contre ça. Ça, c'est un motif qui j'ai eu plein de discussions passionnantes, des discussions très très difficiles aussi, en particulier lorsque dans cette idée de désobéissance civile, il y a des motifs idéologiques forts, comme des motifs religieux qui rentrent là-dedans. Mais j'ai eu des discussions vraiment passionnantes, très très fortes, avec pas mal de jeunes gens sur ce livre-là. Voilà. Mais le motif écologique, moi je dis toujours que pendant un moment, on a cru... les gens de ma génération, on s'est dit, waouh, il y a une nouvelle génération qui s'intéresse beaucoup à l'écologie, il y a Greta Thunberg. Et en fait, Greta Thunberg, c'est l'arbre qui cache le désert, d'une certaine façon. On l'a beaucoup regardée, elle, et derrière, il n'y a pas des foules considérables, quoi, ou des foules plutôt de ma génération que des foules de jeunes gens. Voilà. Mais sur cette idée de quand même de se révolter contre quelque chose qui est perçu comme étant très injuste et imposé par la société, oui, là, ça rentre en écho. Ouais. Ouais.
Alors peut-être qu'il y a des réactions, justement. Est-ce que vous vous sentez d'accord avec ce qu'Éric Pessan vient de dire ? Est-ce que vous vous sentez pas très concerné par ces questions-là d'écologie ? Ou est-ce qu'au contraire, c'est des choses qui vous animent ? Est-ce que parmi vous, mais au premier rang comme sur les gradins, il y a des prises de parole qui ont envie d'être faites ? Il y a un micro à disposition. On sait que vous n'avez, je crois, pas lu hein, encore le roman, c'est tôt après la rentrée, donc pas de pression par rapport à ça. Mais voilà, n'hésitez pas si vous avez envie de réagir ou de poser des questions. Et si devant, il y a des personnes qui veulent réagir ?
Oui, bonjour. Votre phrase, enfin le deuxième titre là, que vous aviez possiblement envisagé, l'expérience de lutte joyeuse, moi je trouve ça très intéressant parce qu'en fait la colère elle est issue de l'impuissance et elle est issue aussi de ce sentiment tellement vaste qu'on ne peut plus rien faire que de se mettre à plusieurs pour lutter, même des petites luttes locales. Ça donne déjà un sentiment de solidarité et de joie d'être sur le même plan. Moi, j'ai été très militante, j'allais faire des manifs, j'ai milité dans un parti aussi, etc. Et maintenant, j'y crois plus du tout à ça. Ça s'est vérifié. Et je suis contente aussi de voir tous ces jeunes qui sont là. Et
les pauvres, ils vont être obligés de lire le livre.
et je trouve que c'est aussi un super moyen, enfin, s'ils le lisent et s'ils ont envie de le lire, d'accéder à cette expérience joyeuse. Bon, ça s'est mal terminé pour la 69, etc. Mais c'est aussi cette idée de se retrouver à plusieurs pour lutter, même des petites choses qui sont autour de nous, et de ne pas être passif. Parce qu'en fait, on est tellement passif dans notre monde. Moi, c'est ça qui me révolte. Et voilà, c'est ça que j'avais envie de dire.
Mais solidarité active.
J'ai juste envie de vous répondre une chose. C'est aussi pour ça que je publie ce livre à l'école des loisirs et que je l'adresse principalement à des adolescents. Tous ces derniers livres que j'ai publiés, Le Soleil, avant il y avait La Gueule du Loup, avant il y avait Tenir debout dans la nuit, dont on a parlé, sont des livres que je pourrais publier chez des éditeurs de littérature générale. Il n'y aurait pas grand-chose à changer. Enfin, il n'y aurait même rien à changer. Je me suis fait engueuler à l'époque, quand j'ai donné Tenir debout dans la nuit à l'école des loisirs, je me suis fait engueuler par mon éditrice, chez Albin Michel, un adulte, qui m'a dit « Mais pourquoi j'ai pas eu ce texte, moi ? Je le sortais chez Albin Michel. » Parce que je voulais vraiment l'adresser à des adolescents. Voilà. Et Le Soleil, j'ai aussi envie... Et là, c'est par rapport à mes convictions personnelles. J'ai aussi envie d'adresser à des adolescents un livre qui montre que la lutte est possible, qu'on peut essayer de changer des choses dans ce monde quand elles nous déplaisent, et que voilà, qu'on peut d'une certaine façon prendre les armes, même si ces armes sont pacifiques. Voilà. Donc c'est aussi pour ça que ce livre est publié à l'École des loisirs et pas chez un de mes éditeurs adultes. Voilà. C'est aussi une forme de militantisme de ma part. J'ai envie de ça.
Il ne tient pas debout dans le jour, en tout cas.
Oui, ce n'est pas grave, parce qu'ils sont courts.
Est-ce qu'il y a d'autres réactions, d'autres questions ? Oui ?
Oui, en moyenne, oui.
Et je trouve que ça, c'est un modèle aussi qui est important, de dire que on peut vivre de son plaisir ou de... Voilà, de ce qu'on s'autorise à faire, et pas forcément aussi pour les jeunes avoir qu'un modèle de ce métier. Parce que en tant que parent, c'est toujours compliqué d'autoriser en fait son enfant à aller vers l'art, vers la culture, parce que c'est moins sécurisant qu'un autre métier, etc. Donc je trouve que c'est bien.
Mes parents m'ont interdit d'être écrivain, hein, je vous rassure.
Oui, vous l'avez dit. Mais c'est bien justement que votre témoignage.
Oui,
je veux dire, c'est possible.
Après, bien sûr, on peut... Enfin, concrètement, moi, ça fait 21 ans que je n'ai pas d'autre métier qu'écrivain. C'est-à-dire que je vis de mes livres, des représentations théâtrales qui sont faites de mes pièces de théâtre. J'ai deux textes qui tournent en ce moment. Et des ateliers d'écriture que je peux mener à droite et à gauche. Voilà. J'aurais pas les ateliers, j'en vivrais pas. Mais pour moi, c'est pas... L'atelier, encore une fois, c'est pas un job économique que je fais à côté. Ça fait vraiment partie de ce que je considère comme étant le travail d'écrivain. Voilà. Donc oui, j'en vis, bien sûr. Ouais. Oui, j'en vis depuis plus de 20 ans maintenant. Et j'espère continuer à en vivre.
Et puis les invitations dans les salons, les traductions à l'étranger qui peuvent aussi...
Il y a une association qui s'appelle Éclat de lire qui me rémunère en ce moment. C'est pour ça, et c'est au nombre
chaque
de mots.
Minute,
c'est pour
chaque ça que minute, je parle beaucoup. Chaque minute, c'est comme Bezos, quoi. Chaque minute, ça tombe.
C'est au nombre de mots que je suis payé, donc je parle
énormément. Et moi, à la question, vous voyez. Donc effectivement, il y a tous ces à côté-là, il y a les publications et puis tout ce que la vie d'écrivain entraîne comme activité. Mais oui, on peut... On peut en vivre.
Oui, on peut en vivre, oui. Oui, oui.
Une question un peu plus personnelle. Peut-être, quand vous disiez tout à l'heure qu'il fallait un vrai projet, il vous fallait réfléchir avant de rentrer dans un texte, avant d'écrire à nouveau quelque chose. Est-ce que à côté, vous écrivez tout le temps? Est-ce que vous avez cette envie d'écrire permanente, de même sans projet, même comme ça, coucher des mots sur le papier, ou est-ce que ça fait partie d'un tout, d'un projet, d'une résidence, d'une rencontre
Eh bien, justement, ça va compléter une question que Maya m'a posée tout à l'heure. Il y a quelques années, je me suis rendu compte que je n'écrivais plus que pour faire des livres. Et chaque fois que j'écrivais, j'avais un projet très précis. Alors quand j'écris du théâtre, souvent ce sont des commandes. Des compagnies viennent me voir et me proposent d'écrire une pièce de théâtre qui va être... Donc je travaille à la commande pour le théâtre. J'écrivais systématiquement avec un projet. Et à un moment, j'en ai eu marre de ça. Et oui, donc j'écris quasiment tous les jours, un petit peu, des trucs, des machins, des idées, des pensées, des choses. Et ça me fait un bien fou de d'écrire sans projet derrière aussi, voilà. Pour garder, ce qui ne veut pas dire que ces écrits épars ne deviennent pas des projets à un moment ou à un autre. Mais j'ai besoin de ça. À une époque, j'avais beaucoup fait sur les réseaux sociaux. Facebook, réseau social de vieux. J'avais beaucoup fait sur les réseaux sociaux. J'ai arrêté parce que je n'en peux plus. Des gens qui font des commentaires pour me dire que j'ai tort de penser ce que je pense, j'ai tort d'aimer ce que j'aime et j'ai tort d'être qui je suis. Les trolls sur Facebook, j'en pouvais plus. Donc j'ai arrêté de parler politique et de mettre des bribes comme ça sur les réseaux sociaux. Donc je le garde pour moi. Mais voilà, oui, j'ai besoin d'essayer des trucs. Voilà, j'ai besoin d'essayer des trucs. Et puis moi, j'ai l'impression de penser mieux quand j'écris, tout simplement. Je pense à l'écrit. Vraiment, l'organe de la pensée, c'est les mains, quoi. Voilà. Vraiment, autant que la tête. Il y a des moments où je formule, au moment où j'écris. Voilà. J'ai essayé, quand j'écris du théâtre, par exemple, de travailler avec un dictaphone. Je n'y arrive pas. Mes phrases sont bêtes, elles sont creuses, elles n'ont aucun intérêt. J'ai besoin, même une réplique de théâtre, j'ai besoin de l'écrire avec un stylo et ma main, ou un clavier, un ordinateur, peu importe. Mais voilà, j'ai besoin de ce geste-là. Le geste d'écriture est important. Donc, je le fais. Oui, bien sûr, je le fais. Je le faisais tout à l'heure en terrasse, là-bas, quand j'ai été dérangé par Maya, qui est venue me dire « il faut qu'on prépare l'entretien ».
Pas du tout, j'ai dit « il faut qu'on boive un café ». Prenez le micro, s'il vous plaît, comme ça, derrière, on vous entend aussi.
Vous avez dit aussi que, dans le début de votre vie, vous dessiniez. Et donc, est-ce que vous avez déjà essayé le modèle BD ?
Alors, j'ai publié un livre de dessin, figurez-vous, aux éditions de L'Attente, qui est un éditeur de poésie, plutôt, qui s'appelle Parfois je dessine dans mon carnet. Pendant 2 ans, tous les matins, j'ai fait un dessin. Il y avait une petite phrase qui commençait par parfois. Voilà. Et ensuite, je faisais un dessin. Dessin au feutre, réalisé directement, sans préparation. Et je postais ça sur les réseaux sociaux, qu'il soit réussi ou raté. Alors, on en a publié 500. On a fait une sélection de 500. On n'a pas publié les meilleurs, mais des fois, des thématiques, au bout de 2 ans, je repassais sur mes propres pas. Et je voulais faire un autoportrait d'écrivain. Voilà. En le dessinant, je trouvais ça chouette. Voilà. Donc oui, je dessine un petit peu. J'ai pas pour l'instant fait de BD. J'ai envie, un jour ou l'autre, de m'y mettre. Par contre, j'ai travaillé avec un dessinateur. Alors, on a fait un projet très passionnant. Un dessinateur québécois qui s'appelle Christian Robert de Massy, qui est quelqu'un qui travaille pour le cinéma. Il conçoit ce qu'on va mettre sur les fonds verts. Vous avez tous vu, en tout cas là sur les gradins, vous avez tous vu le travail de Christian Robert de Massy, puisqu'il va travailler pour les Avengers et les X-Men, les films de Marvel. Donc en fait, c'est lui qui fait les dessins qui ensuite vont être modélisés en 3D, qu'on va rajouter les décors, les machins sur les fonds verts pour le cinéma. Et il dessinait à côté. Et il a fait une BD, il a fait un roman graphique muet de 200 et quelques pages, où une jeune femme découvre un tunnel dans son arrière-cuisine et descend jusqu'au centre de la Terre dans ce tunnel. Il y arrive plein de choses. C'était purement muet. Il a envoyé des éditeurs au Canada. C'est passé par le Japon. C'est arrivé à Nantes, très bizarrement, chez un éditeur qui s'appelle Patayo, qui fait des BD du monde, et qui m'a montré le travail de Christian en me disant « Il manque un texte. Est-ce que tu ne veux pas faire un texte dessus ?» Mais l'auteur n'était pas au courant. Donc il a contacté l'auteur, puisque l'auteur l'avait envoyé à un éditeur japonais qui l'a envoyé à cet éditeur nantais qui était en train d'acheter des droits d'une BD japonaise, enfin bref. Donc ce type-là, un jour, a eu un coup de fil pour dire, voilà, je suis à Nantes, je vais travailler avec un écrivain qui s'appelle Eric Pesson, est-ce que vous accepteriez qu'il écrive un texte autour de votre bande dessinée ? Ça lui a fait un choc, il a réfléchi, on s'est parlé, on s'est fait des visios, on a dit oui. Et en fait, moi, j'ai écrit un texte, donc c'est un format à l'italienne, c'est en paysage, et j'ai écrit un texte qui va sous l'histoire, avec comme contrainte de ne jamais aller au-delà de la page, c'est-à-dire 180 signes maximum par page avec un point, pour pas que la phrase aille plus vite que l'histoire, voilà, qu'on puisse regarder le dessin, lire le texte, regarder le dessin, lire le texte. C'était très beau, voilà, c'était une chouette expérience. Le livre est ressorti aux États-Unis, au Canada depuis, avec mon texte. Et là, ça me donne vraiment envie de travailler sur un roman graphique où je ferai texte et images. Mais c'est du boulot. Hein. Voilà. Donc voilà, je suis en train de réfléchir à ça. Mais oui, ça fait partie de mes projets.
Voilà. C'est du boulot. Oui, dernière question. Et après, si vous voulez bien, allez-y. Le micro, s'il vous plaît, au premier rang.
Je voulais juste revenir sur l'écologie. J'ai deux filles qui arrivent à leurs 40 ans. Elles ont été infernales, c'est-à-dire qu'il fallait qu'on trie, il fallait que... Alors, le nombre de paquets de cigarettes qui ont été déchirés, etc. Et je sentais très bien que l'école travaillait là-dessous, mais depuis très longtemps. Et là encore, bien qu'on soit avec mon mari extrêmement écolo, on utilise l'eau des salades pour arroser, enfin, bon, voilà, tout ce qu'on peut faire. Et je me demande alors qu'est-ce qui se passe pour que maintenant, des jeunes qui, au contraire, devraient être encore plus... exigeants, nourris, et vous dites qu'ils ne s'occupent pas de... ou que ça ne les intéresse pas comme sujet. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Je ne sais pas, c'est aux jeunes à demander. Je sais pas, vous enfin, voilà.
Est-ce que vous sentez écolo, vous, les jeunes ? Est-ce que c'est une préoccupation qui vous anime ? Oui, moi, il me semble aussi. Hein. Moi, j'ai des enfants de vos âges, ils sont un peu terroristes avec nous. Hein.
Non, mais c'est très bien. Hein. C'est juste une impression que j'avais. Moi, j'ai beaucoup entendu des jeunes gens comme vous me dire, de toute façon... qu'est-ce que vous, enfin, votre génération, elle a échoué, vous avez tous échoué, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse, nous ? Voilà. Ou alors, ça, je peux l'entendre, ou alors le côté ce qui m'agace un peu, ah, mais on va trouver une solution. Ce qui est une façon de dire, c'est pas mon problème. Voilà. Mais après, je connais des jeunes gens très écolos, très militants aussi, hein, heureusement. Mais globalement, dans des classes, je trouvais ça un peu... Oui.
Là, moi, je sais pas, mais j'ai l'impression, vous me direz si je me trompe, qu'ils sont un peu tiraillés entre, d'un côté, tout ce qu'on leur offre à consommer et qui donne juste super envie, et de l'autre côté, le discours qu'ils entendent bien sur « oui, il faudrait protéger la planète ». Sauf que quand on vous met un beau gâteau comme ça sous le nez et que vous avez juste envie de visionner des contenus en ligne, même si on sait qu'il y a des data centers, et, etc., etc., et que le numérique, ça pollue, quand on vous met plein d'applis pour commander les derniers trucs à la mode, etc. En deux clics, c'est quand même hyper dur de se dire « ah, mais non ». Parce que... Donc en fait, moi, ça me donne l'impression que... qu'ils sont comme ça placés
dans des injonctions contradictoires.
Dans des injonctions contradictoires et que choisir le côté militant et écolo, enfin, on préfère un peu l'oublier parce que c'est trop dur, quoi.
Voilà. Parce que le pull Adidas, il est trop beau.
Vrai ou pas vrai ?
Est-ce que vous partagez ça ?
C'est addictif.
Qu'est-ce qui est addictif d'acheter ?
Mais le fait d'arrêter tout ce qu'on fait... d'arrêter de commander sur les internet les habits, de en fait, tout ça c'est addictif parce qu'on l'a fait depuis ben, toujours. Mm-hmm. Et le fait de te dire ben faut arrêter parce que c'est pas écolo, ben en fait
c'est très dur.
Ouais, ouais. Voilà, c'est très dur.
C'est la grande différence avec vous êtes né avec, voilà. Oui, vous êtes vraiment né avec.
Ouais. Moi j'ai entendu quelque chose qui me préoccupe et que j'ai envie de creuser, alors je vais être assez vague pour le moment, mais c'est une piste, c'est que en fait nous êtres humains on a une zone dans le cerveau qui s'appelle le striatum qui fait que ce dont on a envie, c'est plus de confort, plus de bien-être, plus de plaisir. On a envie d'être au chaud, on a envie d'avoir des vêtements qui sont confortables, on a envie d'être bien habillé, on a envie de partir en vacances. On a envie d'être bien. Cette petite zone-là de notre cerveau, elle nous pousse à faire ça. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, on a amélioré quand même globalement nos conditions de vie par rapport au siècle dernier. Et que ça ne s'arrête pas. Et que du coup... plus on nous met entre les mains la facilité d'accéder à ce confort-là, plus on va y aller parce qu'on est programmé humainement pour ça. Et on est plus ou moins dominé par ce striatum, il est plus ou moins développé. Mais c'est quand même en nous ce qui fait que c'est très très dur quand on entend un Jean Covici nous dire il faudrait ne plus prendre l'avion que 4 fois dans une vie. On a envie de se dire, bah, mes vacances à Ibiza à 50 euros sur Ryanair, elles étaient prévues là déjà. Donc c'est très compliqué de forcer son cerveau à aller vers... Voilà. Et moi, tant que j'entends pas assez dans le discours ambiant, qu'en fait, il y a du confort et du bien-être dans le fait de passer des vacances dans les gorges du Tarn ou des vacances en Corse, peut-être d'y aller en voilier, peut-être... Et tout ça, en fait, on le présente pas comme un accès à un mieux-être. Donc tant que notre striatum aura pas... ce ne sera pas emparé de ces zones-là, on continuera à être tiraillé et parfois dans des paradoxes.
Bien sûr, et puis il y a une immense hypocrisie sociale, parce que les mêmes qui vous disent attention à la planète vous proposent cette surconsommation. On fait des véhicules de plus en plus lourds qui consomment de plus en plus de carburant. Enfin,
dans le métro à Paris, c'est des vols pour aller en Pologne, aller je ne sais où, pour 40 euros. Quoi.
Ouais.
Bon, donc du coup, on n'a pas encore réglé tout ça. Il va falloir avancer.
Oui, bien sûr. Il y a une injonction contradictoire en permanente de la société. Ouais.
C'est ça. Et on est un peu au milieu. Voilà. On fait comme on peut. On va essayer de faire de mieux en mieux. En tout cas, je vais vous remercier pour votre attention. Merci à vous, Éric Pesson, d'être venu partager tout
Merci,
ça avec
Maria.
Nous.
Merci à vous.
Bonne lecture à vous. Merci pour votre présence. J'espère que vous allez passer de bons moments dans ces pages, que ça va provoquer des débats entre vous. Vous allez vouloir échanger les livres et on se retrouvera au mois de mai au théâtre Jean Le Bleu pour savoir quel aura été votre livre préféré. Merci, bonne journée.
Merci.